Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Dans ce 8e épisode de YogiBiz Podcast pour un format inédit aujourd'hui de questions-réponses. Je fais régulièrement des sondages auprès de ma communauté, auprès de vous, afin d'identifier ce dont vous avez le plus besoin et créer du contenu gratuit ou payant qui réponde à vos attentes. Donc au fil de ces sondages, j'ai recensé les questions les plus récurrentes et je vous propose donc aujourd'hui de répondre à cette série de questions. Je prends juste quelques minutes pour vous partager un avis laissé sur Apple Podcast et une note 5 étoiles parce que ça me fait extrêmement chaud au cœur et ça m'aide à faire connaître le podcast. Donc c'est un témoignage de Jibou 4 qui m'écrit « Top, très riche en informations, merci pour la qualité du contenu ». Donc encore une fois, ça me fait très chaud au cœur et si le podcast vous plaît, je vous invite également à laisser une note 5 étoiles et un petit commentaire. Ça me fait ma journée. Alors, on est parti pour la série de questions. Première question, comment faire acheter un programme en ligne sans être pushy? Autrement dit, comment se vendre sans être agressif? Donc justement, tout ce que je travaille avec vous au quotidien, c'est d'avoir une stratégie de contenu qui va vous permettre une visibilité en ligne. Et en fait, avec ce type de stratégie de contenu, où vous aidez votre client idéal en lui montrant votre expertise et donc en lui apportant votre valeur ajoutée, vous créez un climat de confiance qui fait que vous n'avez pas lieu d'être pushy ou de rentrer dans un système de vente agressif le jour où vous allez sortir un programme en ligne, des cours en ligne ou autre. En fait, vous allez simplement faire la promotion de vos offres régulièrement dans vos posts, dans vos stories, dans vos newsletters par exemple. Et comme votre produit normalement correspond aux attentes et aux besoins de votre client idéal, donc ça répond à ce que votre client veut, si c'est le bon moment pour lui et que votre offre arrive sous ses yeux, alors il l'achètera sans finalement vraie démarche de vente. Vous, vous vous contentez juste d'identifier les réelles problématiques de vos clients, d'y répondre avec des formations ou des cours qui apportent une vraie transformation et vous mettez cette offre, ce service, ce cours sous les yeux de votre communauté. Et donc ensuite, vous aurez forcément un taux de conversion. Donc après, peut-être que vous aurez besoin d'améliorer vos produits au fil du temps pour améliorer ce taux de conversion. Mais en tout cas, vous n'êtes pas dans une démarche de vente avec vos gros sabots, entre guillemets. Même si, attention, la vente, c'est pas que agressif. Vendre un produit, c'est comprendre les besoins de la personne qu'on a en face de soi et y répondre avec un produit, une offre, un service dont on est convaincu que ça apportera une vraie valeur. Donc en fait, la démarche, elle est plutôt saine. En tout cas, pour vendre vos programmes de cette manière-là, ça demandera quand même malgré tout de savoir organiser votre communication, vos éventuels lancements et surtout d'en parler régulièrement. Donc déjà, on dit que en ligne, globalement, il faut voir 7 fois une offre, un message avant que ça puisse nous interpeller. Donc faut pas avoir peur de la répétition. Et puis, dernière petite astuce, il faut pas avoir peur non plus de la conversation. pour déboucher sur de la conversion. Donc, d'où l'importance, comme je le dis souvent, d'interagir régulièrement pour créer ce lien de confiance et voire même d'aller plus loin quand vous créez une offre ou un programme, un produit en ligne, c'est de proposer des appels, entre guillemets, découvertes, ou en tout cas des appels pour échanger avec la personne intéressée par votre produit, pour voilà répondre à ses attentes, savoir si ça lui correspond bien ou l'orienter si vous avez différents programmes, différents services. Donc, il faut pas avoir peur malgré tout d'aller vers cette conversation pour convertir encore plus à vos offres en ligne. Deuxième question, dois-je absolument passer par la case parler en story? Alors, il y a deux sujets dans cette question. Il y a l'utilisation des stories d'une part et parler en story d'autre part, que je comprends un peu ou que je traduis en tout cas comme se montrer en story et parler finalement face caméra. Donc, juste je vous laisse réfléchir deux secondes sur votre pratique personnelle à vous aujourd'hui quand vous vous connectez par exemple sur Instagram. Moi, en ce qui me concerne, clairement, je fais partie des plus de 50% des utilisateurs qui préfèrent regarder des stories plutôt que les posts en feed. C'est mon premier réflexe. Donc, par rapport à ça, et parce que statistiquement, c'est prouvé et démontré, oui, il faut être présent en story. Oui, pour moi, la story aujourd'hui est incontournable. Elle doit vous servir de porte d'entrée finalement vers votre feed où là du coup vous allez avoir des posts qui vont rentrer plus dans votre activité, vos produits, vos émotions, votre personnalité, des astuces, etc. etc. Donc je pense qu'il faut vraiment s'en servir comme porte d'entrée. Donc par exemple, et on le voit souvent en partageant votre post du jour pour créer la curiosité d'aller voir et puis du coup offrir de la visibilité à votre post grâce à la story. Et puis la story, son avantage aussi, c'est qu'elle est plus spontanée. Bon, d'abord, elle est éphémère aussi, donc voilà, c'est pas quelque chose qui reste dans les annales, ou pas obligatoirement en tout cas. Et puis surtout, donc, elle va permettre à votre audience de mieux vous connaître. Et il y a des choses que vous n'allez pas forcément vouloir publier sur votre feed parce que ça ne correspond pas, entre guillemets, à votre ligne éditoriale. En revanche, ça va être super sympa de partager ça en story et vos abonnés, ils vont adorer parce que du coup, ils partagent un peu votre quotidien, c'est super authentique, spontané, ils vous connaissent mieux. Par exemple, moi, en story, parfois, je partage mes petits runs du matin, ma routine matinale, et j'irai pas mettre sur le compte YogiBiz Coaching une photo de moi de course à pied. Ça n'aurait rien à faire dans ma ligne éditoriale. En revanche, ça me fait plaisir de le partager avec vous en story parce que je sais aussi que certains d'entre vous courent, qu'on est quand même sensible à tout ce qui est routine matinale, prendre soin de soi, etc. Donc voilà, c'est aussi ce que permet la story. Alors, vous n'êtes pas, en revanche, obligé de vous montrer. Alors, bien évidemment, j'aurais tendance à dire que c'est quand même mieux si on vous voit de temps en temps vous exprimer en face cam, même si globalement, on vous voit logiquement dans des vidéos de yoga assez régulièrement. Donc, il n'y a pas, malgré tout, d'obligation de faire des speeches face cam. D'ailleurs, si vous le faites, s'il vous plaît, évitez que ça dure 3 heures, c'est assez pénible de prendre le temps des gens en otage, même si on peut switcher. Mais voilà, une fois de temps en temps, ok, mais pas de longs discours en story trop souvent. Et puis, vous n'êtes pas obligé, effectivement, quoi qu'il en soit non plus, de parler, puisque souvent, on regarde les stories aussi dans des lieux publics où voilà, on n'a pas forcément le son, toujours. Donc, en fait, vous pouvez très bien écrire des légendes, des textes pour faire passer des messages, légender votre story. Ça suffit largement. Et enfin, dernier avantage quand même à utiliser la story, c'est que ça reste quand même un outil d'interaction forte avec votre audience, puisque vous pouvez y faire notamment des sondages, poser des questions, des quiz. Donc, c'est quand même un super outil pour faire des études de marché, entre guillemets, pour sonder les besoins de votre communauté, pour vous éclairer. Si vous avez envie de sortir une vidéo, par exemple, vous pouvez leur demander s'ils la veulent plutôt le matin, plutôt le soir, plutôt sur tel sujet ou tel autre. Donc, c'est quand même un excellent outil simple et rapide d'interaction pour mieux connaître votre audience et créer du contenu en phase avec les attentes de vos abonnés. Donc, non, vous n'êtes pas obligé de parler en story et encore moins face cam. Mais oui, vous devez utiliser les stories, sans compter que, je vous rappelle, Instagram adore qu'on utilise toutes ces fonctionnalités. Troisième question, dois-je obligatoirement avoir un site internet ? Alors, ma position sur ce sujet, même si les puristes du marketing digital vont probablement m'arracher les cheveux, les yeux et tout ce qui va avec... Mais j'ai pris le parti pris, justement, pour YogiBiz Coaching, de ne pas, en tout cas, commencer, de ne pas faire la priorité dans le développement de son business d'avoir un site internet. Alors, pourquoi j'ai pris ce parti pris ? Parce que c'est le frein qui revenait le plus souvent dans le développement de l'activité des professeurs de yoga d'une manière générale, la hantise de faire un site ou de faire un site et de l'entretenir entre guillemets. Donc la hantise technique mais aussi financière. Et donc dans mon process signature pour être présent en ligne, pour améliorer sa visibilité, pour vendre des offres en ligne, j'ai pris le parti pris de pas intégrer le site internet dans ma stratégie. Même si, bien évidemment, c'est un atout supplémentaire d'avoir un site, mais pour moi, le site arrive après, entre guillemets, quand on n'a plus que ça à faire, comme un élément en plus, quelque chose qui va venir booster votre visibilité, bien que le référencement d'un site soit plus ou moins long, mais il y a des petites stratégies, notamment avec Pinterest, pour doper tout ça. Donc, ça, c'est pas obligatoire d'avoir un site pour réussir, pour être plus visible, pour vendre ses offres en ligne. Non, ce n'est pas obligatoire. Mon process pour les professeurs de yoga, c'est avant tout d'avoir une newsletter, donc en passant par un gestionnaire d'email, d'avoir une présence principale sur un réseau social et sur YouTube, puisque donc comme on l'a vu, YouTube, vous avez de fortes chances en étant présent en vidéo sur YouTube d'être plus mis en avant qu'un article sur votre blog de site internet, puisque les vidéos, je vous rappelle, ressortent aussi en priorité sur Google. Vous pouvez très bien avoir un lien vers une plateforme de réservation de vos cours, comme par exemple Eversport qui fait ça très bien en France. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir un site pour héberger un système de réservation et de facturation d'ailleurs de cours. Et si vous avez des programmes en ligne, il vous suffit d'avoir un hébergeur, donc comme Teachable, SEO, Podia ou autre, pour héberger votre formation. Donc, quoi qu'il en soit, vous pouvez très bien développer un business, de la visibilité, une communauté, de la notoriété, vendre vos offres sans passer par un site internet. En tout cas, c'est mon process signature pour vous accompagner dans le développement de votre business. Quatrième question, quelles sont les erreurs à ne pas commettre ? Et donc, sous-entendu, j'imagine, quand on débute. Pour moi, la première erreur, ça serait de partir bien en tête en sautant l'étape du positionnement et du client idéal. Donc, dans le positionnement, j'intègre votre mission et votre niche, donc ce qui va vous différencier des autres de la concurrence et la connaissance de votre client idéal, ben, tout simplement parce que tout votre contenu pour attirer une audience qualifiée, des élèves qualifiés, susceptibles de devenir donc des clients, il faut connaître votre client idéal par cœur. Donc ça pour moi c'est l'étape indispensable quand on débute et si vous passez pas par cette case-là, clairement, vous mettez en péril la réussite ou le succès de votre business. Deuxièmement, je dirais qu'il faut commencer tout de suite à enseigner et pour pouvoir enseigner le plus vite possible, si justement vous trouvez pas de cours en studio ou que vous n'avez pas encore d'élèves en présentiel, ben c'est d'enseigner en ligne. Donc commencez tout de suite à enseigner en ligne. Et troisième erreur à ne pas commettre, ça serait de ne pas vous concentrer sur le développement de votre liste email. Donc pour moi, c'est également de créer une base mail tout de suite et forcément d'y associer une newsletter de manière régulière, puisque si vous collectez des adresses mail mais que vous n'écrivez à vos abonnés que le jour où vous avez une offre en ligne à leur proposer ou à leur vendre, vous risquez de faire chou blanc. Donc voilà ces trois étapes, le positionnement le client idéal, enseigner en ligne tout de suite et créer une base mail et avoir une newsletter. Cinquième question, comment via mon contenu je peux intéresser un studio de yoga? Bah, c'est très simple, le studio de yoga, s'il a besoin de recruter des professeurs, bon déjà il y a de fortes chances que lui-même, ce studio, soit aussi présent, par exemple, sur Instagram. Et vous avez aussi de meilleures chances d'intéresser un studio si, justement, vous avez une présence en ligne où on va pouvoir voir votre travail, voir la manière dont vous connectez avec votre audience. Donc, est-ce que vous répondez à vos commentaires? Est-ce que vous êtes présent? Est-ce que vous êtes bienveillant? Est-ce que vous êtes régulier? Parce que ça, c'est signe aussi qu'on peut vous faire confiance, qu'on peut compter sur vous, que vous êtes quelqu'un d'organisé, de fiable, de stable dans votre travail. Le studio va aussi voir du coup votre approche pédagogique et votre style. Est-ce que ça correspond à ce dont il a besoin aujourd'hui? Peut-être aussi particulièrement si vous êtes niché dans un domaine particulier, ça peut correspondre à un besoin pour le studio pour diversifier ses cours également. C'est important aussi à travers votre présence en ligne qu'on voit votre mission et vos valeurs. Et puis, alors je dirais si c'est vraiment ce qui vous intéresse, c'est d'intégrer un studio de yoga. Essayez de développer votre présence locale. Donc, cherchez à faire des partenariats locaux, à être active en fait dans votre région, ce qui va faire que vous allez finalement networker, développer un réseau. On va parler de vous en local et donc du coup, le studio de yoga aussi est plus à même de vous contacter. En dernier lieu, je dirais aussi peut-être, parce que je considère que donc le studio de yoga étant une entreprise, un professionnel, peut être présent sur LinkedIn, donc peut-être aussi être présent sur ce média-là. Donc voilà pour cette cinquième question. Sixième question, quels sont les types de posts à créer pour augmenter ma communauté en peu de temps ? Et j'avais aussi, j'avais plusieurs questions qui se rejoignent, mais comment communiquer efficacement sur les réseaux et attirer des nouveaux élèves? Alors là, on en revient toujours au même, la base de la base, le point incontournable, c'est de connaître votre client idéal. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aime, il est où, quelles sont ses habitudes, comment il consomme les contenus, quel genre de contenu il aime, de quoi il a besoin, comment il fonctionne, quelles sont ses émotions, quel est son comportement sur Instagram, etc., etc. Pour vous aider dans la découverte de votre client idéal, je vous invite à télécharger mon guide sur comment se démarquer de la concurrence et attirer les élèves de vos rêves à vos cours, donc qui vous aidera à travailler à la fois. C'est un workbook qui vous aidera à réfléchir et à travailler sur votre positionnement, votre niche et votre client idéal. Ensuite, pour quel type de post créer, donc pour augmenter ma communauté, pour communiquer efficacement sur les réseaux, c'est des posts qui aident. Vous devez vous poser la question avant de poster, est-ce que ce que je raconte là, c'est utile pour mon client idéal? En répondant à ses besoins, encore une fois, par contre de manière assez simple. C'est-à-dire qu'on est quand même sur du contenu qui est assez snacké sur Instagram. Donc l'idée, j'aime bien cette expression américaine, c'est de donner des petits nuggets en fait. On ne donne pas le sandwich complet, on donne des nuggets voilà, qui font envie, des petits quick wins, comme je disais aussi pour les vidéos YouTube. Donner une astuce, un tips rapide, efficace, simple. On peut aussi capitaliser sur les messages visuels. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'infographies sur Instagram. Moi, je trouve ça assez sympa parce que c'est dynamique, c'est attractif. On va vite à l'essentiel tout en apprenant quelque chose. Donc ça, c'est des formats de post aussi que je vous recommande. Pensez à faire des appels à l'action, à poser des questions, que ce soit à la fin de vos légendes quand vous postez ou via des sondages en story pour justement montrer que vous vous intéressez à vos élèves, à votre cible et puis mieux les connaître. Donc les gens aiment bien interagir aussi. Répondre bien évidemment à tous les commentaires et interagir, donc c'est encore une fois, c'est un réseau social, donc c'est à vous aussi d'aller chercher votre client idéal, d'aller regarder ce qu'il dit, ce qu'il poste, et puis si ça résonne aussi en vous, bah, c'est de commenter ses posts, de répondre à ses stories, de répondre à ses sondages également, d'interagir avec votre client idéal pour le faire venir à vous également. Et ensuite, pour la question en peu de temps, alors malheureusement, c'est quand même un marathon hein, de développer aujourd'hui une communauté en ligne. Il n'y a pas vraiment de recette miracle. Mais en tout cas, plus vous êtes régulier, plus vous ciblez votre communication et plus vous interagissez, plus vite, effectivement, vous allez développer une communauté. Maintenant, pour accélérer tout ça, vous avez aussi le fait de faire venir des invités sur votre compte ou de faire des posts avec des partenaires. Donc ça, ça peut vous apporter de la visibilité plus rapidement parce que du coup, vous allez être dans un partage d'audience, c'est-à-dire que les gens, l'audience du partenaire ou l'audience de la personne avec qui vous faites un live ou avec qui vous faites une interview en IGTV ou autre, bah forcément, vous allez partager vos audiences et donc vous allez récupérer certains de ces abonnés et vice-versa. Donc ça, ça peut être un bon moyen pour développer votre communauté, on va dire, en moins de temps, ou optimiser en tout cas, aller plus vite. Bien évidemment, et j'en ai déjà parlé, il y a aussi le pouvoir de la vidéo pour connecter plus facilement. Et pensez aussi à créer des rendez-vous fixes. Donc par exemple, justement, si vous faites des vidéos, c'est par exemple la vidéo du lundi ou l'interview du vendredi ou le tuto du mercredi. Ça, c'est quelque chose en général qui marche bien. On est plutôt calé dans nos esprits pour ça, notamment avec des choses aujourd'hui comme Netflix. Les rendez-vous fixes, c'est quelque chose qui rassure la communauté et on attend avec impatience ce rendez-vous et donc ça vient fidéliser la communauté. Donc voilà toutes les petites astuces pour augmenter votre communauté, communiquer efficacement sur les réseaux, attirer des nouveaux élèves et en plus ou moins de temps selon vous utilisez toutes les stratégies ou pas. Septième question, comment puis-je offrir mes services en ligne ? Il y a plusieurs formats effectivement pour proposer du yoga en ligne. Donc vous pouvez choisir des cours en live, donc que ce soit des cours particuliers d'ailleurs ou des cours en collectif. Vous pouvez choisir des cours en streaming, des vidéos, construire une bibliothèque de vidéos de yoga qui sont disponibles sur différentes thématiques, avec des temps de séance différents, etc., qui sont disponibles et hébergés sur une plateforme et donc disponible au moment où l'élève veut faire une séance de yoga. Vous pouvez créer des programmes ou des formations. Alors, soit des programmes complètement autonomes, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez vendu le programme, vous n'intervenez plus, soit des formations. Donc là, on va être sur des produits peut-être un peu plus premium où vous allez quand même garder un lien avec votre élève acheteur de la formation, soit par des coachings individuels ou des coachings collectifs, par exemple, ou un groupe d'échange associé à la formation. Vous avez aussi la possibilité donc de faire des workshops en ligne, donc ce qu'on peut appeler en fait dans le business des masterclass, bah pour nous ça va se transformer en workshop de yoga, donc c'est-à-dire venir approfondir un sujet bah sur un workshop de 2 heures ou pourquoi pas d'ailleurs même de 4 heures ou de 6 heures scindés en plusieurs workshops sur plusieurs jours. Donc ça, ça peut être intéressant aussi. Et puis, il y a les petits produits comme les e-books, par exemple, sur une thématique en particulier, que vous pouvez également offrir en ligne. Donc, cours en live ou en streaming, programme et formation, workshop, e-book. Voilà, ça fait partie de différents services que vous pouvez offrir en ligne. Huitième question, comment garantir que mon travail atteindra le succès sur le long terme ? D'abord, il y a une chose. Si vous êtes doué pour quelque chose, que ça vous passionne, que le monde en a besoin et que vous pouvez être rémunéré pour ça, logiquement, il n'y a pas de raison d'échouer. Vous allez forcément diriger forcément vers le développement d'une activité à succès. Bon, après, je ne sais pas ce qu'on met derrière succès dans cette question. Mais en tout cas, voilà, dites-vous que si vous avez un domaine de compétences, que vous en êtes passionné, c'est-à-dire que vous pourriez en parler tout le temps, quoi qu'il en soit, même si vous gagnez au loto, vous auriez envie de continuer à transmettre ça parce que c'est une passion pour vous de partager. Si le monde en a besoin, donc autrement soit dit qu'il y a un marché et que les gens sont capables de vous payer pour ça, alors il n'y a pas de raison que votre travail n'atteignent pas effectivement le succès qui plus est sur le long terme. Si vous êtes au service de votre client idéal et que vous aidez des gens à se transformer, bah, là aussi vous allez forcément vers quelque chose qui va fonctionner. Pour garantir entre guillemets aussi le succès, c'est important de se fixer des objectifs et de savoir les découper en tâches, les répartir dans le temps et d'avoir une vraie stratégie sur laquelle vous faites un point régulièrement, donc que ce soit à la fois dans vos réalisations mais aussi financièrement. Donc ça, c'est aussi important pour réussir, c'est de savoir où on va, comment on va y aller, combien on veut aller chercher, donc que ce soit d'abonnés, de chiffre d'affaires, d'abonnés à notre newsletter, etc. De fixer les choses noir sur blanc, d'avoir une roadmap. Ça fonctionnera aussi si vous ne vous arrêtez pas. Encore une fois, l'essentiel, c'est pas d'aller vite, ni d'aller très vite, mais en revanche, c'est effectivement de ne jamais s'arrêter. Pour garantir le succès aussi, bah, il faut pas hésiter à se lancer avant que ce soit parfait. Passez à l'action rapidement, vous aurez tout le temps de vous améliorer ensuite. On prend chaque problème finalement quand il arrive. Et puis, dernière chose pour conclure sur cette question, j'aime bien l'expression « il n'y a que dans le dictionnaire que résultat arrive avant travail ». Donc forcément, si vous travaillez, il y a de fortes chances pour que vous arriviez à des résultats in fine. Neuvième question, à quelle fréquence publier ? Donc là, j'imagine qu'on parle notamment d'Instagram. À quelle fréquence publier sur Instagram ? À mon sens, publier une fois par semaine, c'est trop court. Publier tous les jours, c'est pas forcément réalisable. Il faut pas non plus que ça devienne une contrainte. Idéalement, 3 à 4 fois par semaine, c'est bien. Et ce qui est encore mieux surtout, c'est de s'y tenir. Donc ce qui compte, c'est de trouver le bon rythme de poste, forcément d'avoir aussi des choses à dire, parce que poster pour poster, ça n'a pas grand intérêt, et de rester derrière régulier. Parce que si vous postez 5 jours sur 7 pendant 3 semaines, et puis après plus rien pendant 2 semaines, ça ne marchera pas. Donc postez régulièrement en adaptant votre nombre de posts par semaine, idéalement, je dirais, au moins 3 à 4 fois par semaine, surtout si vous êtes dans l'optique de développer votre nombre d'abonnés et votre communauté. Ensuite, pour rejoindre un petit peu cette question, il y a l'heure à laquelle vous pouvez publier. Donc ça, vous pouvez avoir des indications dans vos statistiques, comme vous êtes donc normalement, hein, en tant que prof de yoga, en compte pro. Mais malgré tout, j'attire votre attention sur le fait qu'il y a quand même un piège dans l'idée de se caler sur ces heures de prédilection de votre audience, où vous voyez l'heure à laquelle ils sont plus connectés. Parce que forcément, si tout le monde fait ça, donc on va dire qu'on a 1000 posts, en réalité c'est beaucoup plus d'ailleurs, susceptibles d'intéresser votre client idéal dans différents domaines, vous allez quelque part être noyé. Alors que si vous publiez peut-être un peu avant, un peu après, de manière stratégique, peut-être que là, votre post va être plus mis en avant dans le feed de votre client idéal, de votre abonné. Donc, je vous recommande de regarder ces statistiques, mais pour autant de quand même faire des tests. Donc, au-delà de la fréquence, effectivement, il y a aussi le moment de publication à prendre en compte. Dixième question, comment se faire connaître sur les réseaux ? La première stratégie pour se faire connaître sur les réseaux, c'est la stratégie de hashtag. Donc j'en ai notamment parlé longuement dans l'une de mes newsletters et j'y reviens dans l'épisode sur Instagram, si vous ne l'avez pas encore écouté. Mais effectivement, c'est via les hashtags qui sont finalement le moteur de recherche de substitution d'Instagram. C'est via des hashtags bien ciblés que vous allez vous faire connaître. Donc le hashtag, c'est quand même l'outil de visibilité gratuit le plus puissant sur Instagram. Se faire connaître sur les réseaux, bah, c'est aussi la régularité, donc on vient d'en parler. C'est aussi, j'en parlais tout à l'heure, quand on disait qu'on voulait développer sa communauté et se faire connaître en peu de temps, d'aller chercher des partenariats, que ce soit pour des lives, pour des IGTV partagés, des interviews, pour des partages même de comptes, puisque l'idée, quand vous êtes sur du partage de compte ou du partenariat avec quelqu'un de l'article invité, de l'interview ou autre, c'est que du coup, vous allez bénéficier de l'effet cumulé de vos audiences. C'est ça qui peut vous permettre aussi de vous faire connaître plus vite sur les réseaux que de rester finalement tout seul dans votre coin. Et puis, quatrième point, c'est d'interagir. Donc, j'en parle là aussi très souvent. Donc, c'est pas juste... Alors, répondre à vos commentaires, ça, c'est une certitude à 100%, répondre à tous vos commentaires. Mais c'est aussi pas juste vous contenter de regarder ce que vous avez dans votre feed, parce que par définition, ce que vous voyez dans votre feed, c'est pas les publications des gens qui sont abonnés à vous et donc intéressés par vos produits, vos services, votre yoga, c'est les gens auxquels vous êtes abonnés. Donc peut-être que vous êtes abonné à d'autres professeurs de yoga qui vous inspirent, peut-être que vous êtes abonné à vos amis, à votre famille, mais vous n'allez pas voir dans votre feed ou dans vos stories vos clients idéaux finalement. Donc pour ça, il faut aller les chercher, donc via justement les hashtags, en fonction de votre client idéal et de votre positionnement. Ça va être d'aller chercher vos clients idéaux qui sont sur Instagram et puis de s'intéresser à ce qu'ils publient, à ce qu'ils font, que ce soit en feed, enfin en post ou en story, et de leur laisser des commentaires, et des commentaires de valeur, pas juste un émoticône, un message éventuellement d'ailleurs en privé, de répondre à leur sondage, d'interagir avec leur story, donc comme je le disais tout à l'heure, mais c'est l'interaction. Donc ça, c'est hyper important, surtout au début. Quand vous voulez développer votre communauté et vous faire connaître, c'est d'interagir avec votre client idéal et donc d'aller le chercher. Il ne viendra pas forcément tout seul. Ou en tout cas, vous ferez mieux connaître, plus connaître, plus vite connaître si vous interagissez régulièrement. 11e question, comment toucher ma cible ? Pour toucher votre cible, d'abord, il faut aller sur la plateforme où elle se trouve. Il faut aller sur la plateforme, le réseau social où se trouve votre client idéal. Pour toucher votre cible, vous pouvez aller aussi dans les groupes Facebook. Donc selon la thématique du groupe, si ça correspond à votre niche et à votre client idéal, n'hésitez pas à intégrer ces groupes et du coup à y apporter de la valeur, à commenter. N'y allez pas pour faire la promotion de vos services, les gens viendront à vous si justement ils voient que vous apportez de la valeur ajoutée dans vos commentaires. Pour toucher votre cible, vous pouvez également faire des sondages via les stories. Vous toucherez mieux votre cible idéale en créant le bon contenu. Allez interagir, j'en ai déjà parlé. Et puis, si vraiment vous avez une cible particulière, pourquoi pas utiliser la publicité si vous êtes vraiment sur une audience ciblée. J'avais eu une question, par exemple, sur un public cible qui était les femmes de plus de 50 ans. Effectivement, via une publicité Facebook, vous pouvez toucher que ce public de femmes au-delà de 50 ans. Donc, ça peut être aussi une solution pour toucher plus précisément votre cible. 12e question, quel est le réseau social à valoriser le plus ? Comme je viens d'y répondre, pour toucher votre cible, c'est aussi le réseau social où votre client idéal est. Mais pour vous donner un exemple, si vous voulez travailler par exemple avec les entreprises, en entreprise, donner des cours de yoga en entreprise, ça va être indispensable pour vous d'avoir une présence sur LinkedIn. Okay ? Pour le référencement, et on l'a vu dans l'un des épisodes de ce podcast, ça va être d'être présent sur YouTube, d'avoir une chaîne YouTube avec des vidéos, ce qui va vous permettre un bon référencement organique via Google. Donc le réseau social à valoriser le plus, c'est celui où est votre client idéal. Et puis on peut aussi penser à YouTube pour le référencement. 13e question, comment générer des revenus avec le moins d'efforts possible ? Alors j'adore cette question, avec le moins d'efforts possible. Bon, je l'ai déjà dit, hein, mais voilà, il faut d'abord travailler pour avoir des résultats malgré tout, hein, donc il va quand même falloir fournir des efforts. En revanche, et j'ai aussi un épisode consacré à cette thématique, un épisode de podcast, l'idée, ça va être de réfléchir à comment pas uniquement échanger son temps contre de l'argent. Trouver des solutions qui vont vous permettre en fait de créer des produits une fois. C'est pour ça d'ailleurs que j'invite à créer des produits digitaux. J'en parle dans l'épisode sur 4 types de programmes de yoga à créer en ligne. Et en fait, vous allez créer un contenu une fois qui va se vendre régulièrement, donc vous allez avoir finalement plusieurs résultats pour une seule action. Et des résultats que vous allez pouvoir générer de jour, de nuit, constamment, régulièrement, à chaque fois que vous remettez votre produit en avant, forcément vous êtes susceptible d'avoir de nouveau des ventes. Donc sans tomber dans l'extrême des revenus passifs, même si vous pouvez tout à fait construire une carrière de yoga à succès avec beaucoup de revenus passifs, l'idée en tout cas c'est de créer des produits qui vont pas nécessiter votre présence et votre temps tout le temps, mais qui vont fonctionner finalement une fois qu'ils sont créés. On va avoir un résultat exponentiel. Forcément, à un moment donné, ça va quand même vous demander du travail parce qu'il faut les créer, ces programmes. Mais si effectivement vous voulez générer avec des revenus avec le moins d'efforts possible, bah, petit à petit dans le temps, une fois que vous aurez fini votre programme, même si vous allez toujours peut-être l'améliorer ou le réviser en fonction des feedbacks ou autres, on va dire que vous travaillez une fois et que c'est un programme ou un produit qui continue à travailler pour vous, qui vous amène des revenus réguliers sans fournir des efforts tous les jours par rapport à ça. Donc voilà, et puis après, pour générer des revenus en faisant le moins d'efforts possible, il y a aussi une question d'organisation dans son travail, d'être bien organisé pour être le plus productif possible. Donc ça va être par exemple de savoir batcher ses tâches, donc par exemple de prendre une journée pour créer toutes ses vidéos, de savoir rester focus, d'avoir une feuille de route et de s'y tenir. Donc ça, c'est aussi des petites astuces qui font que voilà, vous allez être obligé de travailler, c'est clair, mais peut-être moins pour plus d'efficacité, de rentabilité que quelqu'un qui part dans tous les sens, qui est complètement désorganisé et qui ne diversifie pas du tout ses revenus, qui continue d'échanger son temps contre de l'argent. Quatrième question, comment trouver la limite entre ce qu'on a... Quatorzième question, pardon. Comment trouver la limite entre ce qu'on a à transmettre gratuitement et ce qu'on en transmet de payant ? En réalité, moi par exemple, tout ce que je sais, tout, je le transmets gratuitement. C'est-à-dire, je n'ai pas de frontières, je transmets tout ce que je sais, tout ce qui est en mesure de vous aider, je n'ai pas de filtre. La différence avec un contenu payant, c'est que dans un contenu payant, il va y avoir un processus. Il va y avoir, donc justement, je parlais beaucoup de roadmap, de plan d'action, étape par étape, sur vraiment comment faire de A à Z, vous prendre par la main, ce qui va éviter finalement de perdre du temps à chercher les infos partout sur Internet, écouter le bon podcast, lire le bon article, etc. Donc, quand on est sur un contenu payant, la personne, elle a plus qu'à suivre ce contenu. Et de A à Z, elle va réaliser son objectif, vivre une transformation sans se poser 36 000 questions, juste parce que le processus est là et il n'y a plus qu'à le suivre. On peut aussi, en termes de contenu payant, y ajouter du coaching ou un suivi personnalisé qui justifie aussi le fait de faire payer son produit. Par exemple, vous pouvez donner un cours en live gratuit, entre guillemets, sur donation sur Instagram. Voilà, vous donnez votre cours, c'est gratuit, ça montre ce que vous faites. Et bon, après, vous avez une cagnotte éventuellement donc pour les donations. Enfin, pas éventuellement d'ailleurs, vous avez une cagnotte pour les donations. Mais à côté de ça, vous pouvez avoir des cours sur Zoom que vous allez faire payer. Pourquoi ? Parce que là, vous allez prendre un nombre d'élèves limité et vous allez leur apporter des corrections en ligne, des alignements, faire attention à ce que chaque élève fait parce que vous allez les voir sur votre écran et donc leur apporter aussi quelque chose de plus personnalisé. Ce qui justifie le fait que ce soit payant et qu'il y a un tarif applicable. C'est le même yoga que vous allez transmettre de manière gratuite que de manière payante. Mais dans la version payante, si on prend cet exemple, voilà, vous allez apporter une attention particulière à chacun de vos élèves. Si c'est un programme en ligne que l'élève achète, il va suivre un processus. Donc par exemple, s'il veut réussir à faire une posture, ben, il aura tout le cheminement, step by step, avec des délais bien précis de pratique entre chaque étape et ainsi de suite. Là où sinon, ben, il va trouver des vidéos à droite, à gauche, mais il ne va pas forcément faire les choses dans le bon ordre, pas forcément avoir toutes les bonnes astuces ou des astuces cohérentes entre elles pour arriver à la finalité. Donc voilà la limite ou la différence, je dirais, entre ce qu'on va pouvoir transmettre gratuitement, Donc finalement, on transmet tout ce qu'on peut de manière gratuite. Mais en tout cas, voilà ce qu'il y a en plus quand on est sur quelque chose de payant ou de différent quand on est sur quelque chose de payant. 15e question, comment booster mon compte Instagram qui ne décolle pas malgré mes efforts? Donc j'ai déjà pas mal abordé ce sujet-là. Alors si ça ne décolle pas, déjà attention à ce terme décoller, ne vous flagellez pas. Encore une fois, je rappelle qu'on n'est pas des influenceurs, donc on ne cherche pas forcément des millions d'abonnés parce que c'est pas parce qu'on aura beaucoup d'abonnés qui vont se transformer en clients. Vaut mieux encore une fois avoir moins d'abonnés mais qui soient qualifiés et donc susceptibles de devenir nos clients fidèles. Donc attention au leurre quand même du nombre d'abonnés. Ensuite, la question à se poser, c'est est-ce que je suis au bon endroit par rapport à mon client idéal? Est-ce que j'interagis, donc comme je l'ai expliqué, de manière intelligente, entre guillemets, c'est-à-dire est-ce que je vais bien chercher mon client idéal dans mon interaction et je me contente pas juste de regarder ce qui se passe sur mon feed? Est-ce que j'ai une bonne répartition dans mon contenu, c'est-à-dire est-ce que je fais peut-être pas trop de promotion, ce qui veut dire que j'apporte peut-être pas assez de valeur aux gens et vice-versa? Est-ce que je fais des appels à l'action régulièrement dans mes posts entre autres? Est-ce que je publie de la vidéo? Parce que ça, c'est clair que c'est incontournable. Est-ce que je fais des lives? Est-ce que je fais des collaborations? Est-ce que je suis régulière? Donc voilà, toutes les steps qu'on a déjà abordées pour développer sa communauté, pour créer du contenu intéressant, pour fidéliser sa communauté, c'est les mêmes questions à se poser sur comment booster mon compte Insta qui ne décolle pas malgré mes efforts. Mais j'avais gardé cette question quand même pour vous mettre en garde sur le décolle pas et les efforts, est-ce qu'ils sont bien au service de votre business? Est-ce que vous menez bien les bonnes actions? Parce que des fois, on est dans la création de ses posts, de ses visuels, etc. Mais finalement, est-ce que je sers bien mon client idéal? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que mon contenu, il est vraiment utile? Donc, toutes ces questions à se poser. 16e question, comment arrive-t-on à se distinguer? Alors là, j'ai une seule et unique réponse, c'est en se nichant, donc en trouvant son positionnement unique, en sachant à qui on s'adresse et quelle transformation précise on offre. 17e question, quels sont les grands principes du marketing digital? En ce qui nous concerne, en tout cas pour développer votre activité de prof de yoga, donc pour moi les grands principes c'est de faire du marketing de contenu, donc créer du contenu gratuit. Ce contenu, mettre sur les bonnes plateformes pour attirer du trafic vers mes produits, donc ce trafic qui va du coup se transformer en une audience finalement qualifiée grâce donc à des cadeaux bonus, du contenu à valeur ajoutée, et de cette audience, enfin à cette audience, je vais pouvoir proposer mes produits en ligne et cette audience va alors probablement se transformer en client. Donc c'est d'aller chercher des sources de trafic sur lesquelles je vais proposer du contenu, attirer entre guillemets mes élèves dans un entonnoir avec des bonus et du contenu à forte valeur ajoutée pour l'aider dans sa problématique. Et in fine, pouvoir proposer à cette audience qualifiée mes produits, mes services en ligne pour les transformer donc en clients. Donc voilà en gros le cheminement du marketing digital. 18e question, quels sont les outils majeurs à utiliser? Alors, les réseaux sociaux, un gestionnaire d'email, une plateforme de réservation et de facturation comme Eversport par exemple, des outils pour vous aider dans la création de votre contenu comme Canva pour les visuels, Unsplash pour les photos, Planoly pour programmer vos posts, des applications comme Notes ou Evernote pour noter toutes vos idées, des logiciels d'organisation comme Trello par exemple pour vous y retrouver dans tous vos projets, donc des gestionnaires de projets, des outils qui vous permettent d'éditer vos vidéos comme iMovie, InShot ou Splice, des hébergeurs de formation, donc pour héberger par exemple vos programmes ou vos vidéos en streaming, donc comme Teachable, Podia, System.io, et puis une page Facebook pour pouvoir faire de la pub et un Google My Business pour pouvoir être identifié localement. Voilà les outils majeurs que vous pouvez utiliser. 19e question, comment faire des directs avec juste un téléphone portable? Donc là, je pense que quand on parle de direct, on parle de vidéo en live. Eh ben, c'est la même chose qu'avec un ordinateur, hein. Enfin, c'est très simple en fait, hein. Il y a juste à lancer le live sur l'application concernée, donc Facebook ou Insta ou autre. Et c'est OK, ça fonctionne très bien, il n'y a pas besoin de plus de matériel que ça. Donc y ajouter éventuellement un micro. Mais encore une fois, moi je sais par exemple qu'avec mon téléphone et j'ai mes AirPods, mais il suffit de parler pour qu'on m'entende ou alors d'enregistrer. Quand c'est un live, on peut pas enregistrer la voix off, ça c'est pour les vidéos. Donc on appuie sur le bouton, on lance le live et c'est OK. 20e question, comment bien utiliser les IGTV? Là, ce que je vous conseille, c'est un peu comme quand on démarre sur YouTube, c'est d'aller chercher des vidéos courtes, des petits formats, des quick wins. Donc les gens aiment bien les vidéos de, allez, on va dire en moyenne 5 minutes. Faut que ce soit aussi assez dynamique. Donc voilà, pas comme un podcast par exemple où on est quand même dans une conversation, il peut y avoir un peu de temps, des enfin voilà, mais sur une IGTV effectivement, il faut que le montage soit dynamique, donc s'il y a des cuts, enfin il faut pas hésiter voilà à couper quand il y a des redondances ou autres. Mon petit conseil aussi, c'est de faire apparaître vos IGTV dans votre feed, donc avec d'ailleurs vous pouvez mettre une image d'accueil, de couverture, ce qui va quand même permettre de garder, de maintenir un feed cohérent. Mais si vous publiez juste une IGTV dans les IGTV sans finalement, entre guillemets, en faire la promotion dans votre feed ou dans votre story, vous aurez beaucoup moins de visibilité. Et puis, pensez bien à filmer aussi en horizontal, puisque maintenant, on peut très bien lire les vidéos en horizontal sur IGTV. Et surtout, ça vous permettra aussi plus facilement de repartager votre contenu. 21e question, comment proposer des programmes en ligne quand on n'a pas de site? Donc, en optant pour un hébergeur de formation, comme je le disais tout à l'heure, donc Teachable, Podia, System.io, Vimeo, vous avez plusieurs options sur le marché. Pour ma part, j'utilise aujourd'hui System.io en français. Ce sont des plateformes qui vous permettent d'héberger vos programmes. 22e question, toutes les clés pour développer son compte Instagram? Alors, j'ai un épisode dédié à ce sujet que vous pouvez donc retrouver dans le podcast. Et puis, faire un petit teasing avec Eversport. On vous réserve une masterclass, un webinaire à venir. Donc, restez connectés sur nos comptes, notamment Instagram, donc sur YogiBiz Coaching et le compte Instagram d'Eversport, pour vous inscrire à ce webinaire qui parlera d'Instagram. 23e question, comment trouver des collaborations à ma portée? Déjà, partez du principe que qui ne tente rien n'a rien et que c'est pas bien grave si on vous dit non. Donc surtout, n'hésitez pas à aller vers ce qui vous fait envie. En revanche, évitez de débarquer du jour au lendemain dans la vie de cette personne avec qui vous voulez faire une collaboration. Je vous recommande quand même au préalable, si vous avez l'idée d'une collaboration, d'un partenariat avec une marque ou quelqu'un, de déjà le suivre, mettre des commentaires régulièrement sur ses contenus, le repartager. Faites-vous connaître en amont. Aujourd'hui, on ne peut pas débarquer comme ça à froid en disant « voilà, j'aimerais que tu participes à telle ou telle chose avec moi. Tiens, est-ce qu'on peut organiser un concours? Est-ce qu'on peut faire une interview ensemble ?» C'est quand même mieux d'y aller par étapes, de vous faire connaître petit à petit. Après, forcément, ça fonctionnera mieux si on est dans une stratégie win-win. Alors, ce que je recommande pour être dans une stratégie win-win bien souvent, soit vous allez rechercher une collaboration avec quelqu'un qui est justement sur un lancement d'un programme, d'un produit ou autre. Du coup, ça a un intérêt pour lui parce qu'il va pouvoir aussi faire sa promotion. Donc ça, c'est plutôt favorable. Et puis, bien souvent, le win-win, c'est aussi d'avoir des audiences non seulement complémentaires, mais aussi similaires. Ça va être compliqué d'avoir un partenariat avec quelqu'un qui a 10 fois plus d'abonnés que vous, sachant que vous, ça vous apportera probablement de la visibilité, mais lui, un peu moins. Donc, posez-vous toujours la question de l'intérêt que va avoir votre partenaire à collaborer aussi avec vous. 24e question, quelle organisation pour gérer ses contenus? Alors ça, je sais que c'est une des questions récurrentes. Bah moi, mon meilleur conseil pour gérer la production de contenu, c'est de batcher, encore une fois. Donc, comme le batch cooking, hein, c'est-à-dire que c'est de prendre plusieurs heures, une demi-journée, voire une journée, par exemple, pour réaliser tous vos posts de la semaine. Donc, comme ça, vous restez focus sur la tâche, vous vous dispersez pas, votre cerveau, il est programmé pour travailler sur cette tâche-là. Vous faites tout d'un coup. Ensuite, vous passez par l'étape programmation. Ce qui vous permet aussi d'éviter que ce soit chronophage ou de vous retrouver tous les jours à vous dire « mince, qu'est-ce que je poste ?» Là, bah, je dois aller dîner avec des amis, mais il faut que je m'occupe de publier parce que sinon, aujourd'hui, voilà, j'aurais pas publié. Enfin, c'est pas possible. Donc, vous batchez, vous programmez et surtout, vous notez aussi toutes vos idées au même endroit. Alors moi, j'ai fait l'erreur pendant très longtemps. J'avais de multiples sources d'endroits où je notais dès que j'avais une idée ou que je voyais quelque chose qui m'intéressait à exploiter ou voilà. Et puis sauf qu'au final, bah, c'est tellement éparpillé que le jour où on se dit bah, « tiens, je poste quoi cette semaine ?», on n'a pas d'idée. Donc maintenant, je mets tout au même endroit, c'est dans les notes de mon téléphone. Il y a un moteur de recherche dans les notes du téléphone. Donc pour moi, c'est l'idéal. Je reprends toutes les idées que j'ai notées et puis je pioche et je crée mon planning éditorial. Donc, batcher, programmer et noter ses idées au même endroit. 25e question, quel outil pour programmer? Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, je crois. Moi, j'utilise Planoly, qui est gratuit jusqu'à 30 postes de mémoire. C'est hyper bien. Enfin, j'adore cette interface. Il y a aussi Letter et puis Creator Studio, donc qui est l'outil de Facebook. Qui vous permet de planifier tout ce qui est carousel et IGTV qu'on ne peut pas planifier sur Planoly ou sur Letter. Alors tout ça, c'est susceptible de changer entre le moment où j'enregistre le podcast et votre écoute, mais globalement, Creator Studio est plutôt préconisé pour tout ce qui est carousel et IGTV. 26e question, comment shifter mon mindset, car passer d'une passion à demander de l'argent, c'est pas facile. Alors j'aime beaucoup, beaucoup cette question et je pense qu'elle va parler à beaucoup d'entre vous. Comme j'avais répondu à la personne qui m'a posé cette question, ça mérite un épisode de podcast entier, donc je vais y penser. Mais donc d'abord, ce qu'il faut lire entre les lignes de cette question, c'est que cette personne, elle a bien conscientisé le fait d'avoir décidé de vivre de sa passion. Donc elle a conscience, en fait, à travers cette question, que pour en vivre, ben, il va falloir une rétribution et donc il va falloir se faire payer. Mais déjà, ça, c'est une bonne chose. Maintenant, vous avez beau être un entrepreneur dans le bien-être, un entrepreneur de cœur, avec beaucoup de générosité, vous n'en demeurez pas moins entrepreneur. Et donc, ben, pour vivre de votre métier, vous avez forcément besoin d'être rémunéré. Effectivement, c'est important de travailler, d'améliorer votre rapport à l'argent en réalisant que d'abord, l'argent, c'est qu'une monnaie d'échange, hein. En fait, l'argent va juste permettre aux personnes à qui vous enseignez, à qui vous partagez votre travail, de reconnaître justement la valeur de votre travail et ce que vous leur apportez. Donc, c'est OK. En fait, on est content de rémunérer, enfin de payer quand c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous apporte de la satisfaction, qui nous permet de progresser, enfin, dans votre vie de tous les jours. Vous êtes content de payer au restaurant quand vous avez apprécié que c'était qualitatif, vous êtes content d'avoir investi dans une formation quand ça vous a apporté de la transformation, que ça vous a vraiment permis d'aller de l'avant, de progresser. Donc, bah, de la même façon, vous, ce que vous allez transmettre, enseigner, c'est peut-être votre passion, mais en fait, vous allez aider des personnes et l'argent, c'est juste un moyen pour ces personnes de reconnaître la valeur de votre travail. Donc ça, c'est OK. Être rémunéré, c'est aussi vous permettre de vivre à temps plein de votre passion. Et donc, en vivant à temps plein de votre passion, vous faites pas partie de ces gens qui sont en permanence en quête de sens. Vous, au contraire, vous allez du coup être aligné avec ce que vous faites. Ça va vraiment donner du sens à votre vie. Et donc, du coup, vous allez être hyper serein pour partager avec encore plus de personnes ce que vous avez à transmettre et impacter encore plus de vies, du coup, positivement. Parce que si vous vous faites rémunérer pour votre passion, ça veut dire que vous pouvez en vivre. Et donc, ça veut dire potentiellement que vous pouvez toucher plus de personnes que si vous ne faites pas rémunérer, que vous ne pouvez pas passer tout votre temps, du coup, à enseigner ou à transmettre, ou si vous vous faites mal rémunérer, ou si vous en vivez à mi-temps. Donc au contraire, c'est une très bonne chose. L'avantage aussi, et surtout dans nos métiers, c'est que en touchant de l'argent par rapport à nos cours, à ce qu'on transmet, à notre activité, du coup, vous allez aussi pouvoir réinvestir cet argent dans le développement de votre activité, mais pour aider encore plus les autres, vous allez peut-être pouvoir investir cet argent, justement, on en parlait en préambule, pour créer votre site internet à un moment donné, mais aussi peut-être pour faire un cours pour une bonne cause ou utiliser vos dons, enfin les donations de votre cours pour servir une association. Donc ça va être aussi le moyen de ce qui vous tient à cœur. C'est pas que pour vous enrichir, en fait, ça va être aussi certainement peut-être pour donner plus ou mieux à d'autres, pour pouvoir faire des choses justement qui vous tiennent à cœur. Ou si vous n'avez pas de quoi payer vos factures, à un moment donné, vous ne pourrez pas non plus être dans cet état de générosité. C'est pas parce que votre métier, ou c'est pas parce que votre passion devient votre métier, ou que votre métier est votre passion, que vous n'avez pas à être rémunéré pour ça. Ça reste tout de même un métier. C'est finalement, pour vous, c'est plus une vocation, en fait, on va dire. Et il n'en demeure pas moins que vous devez adopter cette posture d'entrepreneur. Parce que c'est l'argent qui va quand même vous permettre justement d'avancer plus sereinement dans votre mission, d'impacter plus de vies. Et donc c'est complètement légitime de se faire rémunérer. Voilà, donc encore une fois, j'y consacrerai, je pense, un épisode sur le mindset d'un entrepreneur et le rapport à l'argent, le money mindset. Je pense qu'il y a plein de choses à dire. Mais déjà, j'espère que ces petites pistes vous permettent... vous éclaire sur ce sujet et donc sur comment shifter votre mindset par rapport à l'argent. Alors, il nous reste deux questions. Donc, la 27e question que j'ai bien aimée aussi et qui est un peu en marge du marketing digital, mais j'ai trouvé ça touchant, c'est comment rester créative. Donc, j'imagine que cette question vient d'un professeur ou d'une professeure qui enseigne depuis de nombreuses années. C'est pour ça d'ailleurs que ça m'a beaucoup touchée. Parce qu'effectivement, j'imagine, pour l'avoir vécu aussi dans ma profession auparavant où j'organisais beaucoup de séminaires et de réunions, parfois on se pose la question de se réinventer, on a le sentiment de toujours faire la même chose. Et finalement, je sais pas si on lasse nos élèves, mais en tout cas, on peut soi-même y trouver de l'ennui et ça peut... commencer à créer des angoisses. Donc moi, ce que je vous invite à faire pour rester créatif, c'est déjà d'aller dans d'autres cours, d'aller assister à d'autres cours de d'autres professeurs. Et peut-être que du coup, vous allez découvrir des approches différentes et qu'il y a certainement des choses que vous pourrez vous approprier ou en tout cas vous en inspirer. Ça va forcément aussi vous apporter des idées nouvelles. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment de redevenir, même si on l'est toujours, mais élève, d'aller peut-être plus souvent dans d'autres cours et puis de chercher, de vous ouvrir à des nouvelles choses, à des nouvelles inspirations, à des nouveaux courants d'idées. Vous pouvez aussi créer des sondages pour savoir ce que vos élèves veulent et du coup ça vous rassurera et ça vous donnera confiance aussi quant à ce que vous allez leur proposer, d'être aligné avec leurs attentes. Et dernier point, c'est pourquoi pas de faire une autre formation. Alors je sais pas, je donne un exemple, mais peut-être que vous êtes professeur de vinyasa, on va dire, et puis faire une formation d'ashtanga pourrait vous permettre de faire des flows aussi peut-être un peu différents, ou d'intégrer d'autres postures dans votre flow. Donc voilà, ou à l'inverse, peut-être faire du yin aussi, qui peut vous permettre de diversifier votre approche dans vos cours. Ou tout simplement aussi parfois de participer à un workshop, à un atelier sur un sujet. Ça peut vous amener aussi des idées dans la construction de vos flows. Et pourquoi pas d'ailleurs des ateliers aussi plus philosophiques, mais qui derrière vous allez pouvoir retranscrire ça dans une pratique d'asanas en fait. Donc voilà, c'est finalement d'aller vers les autres, d'aller chercher de nouveaux apprentissages pour réussir à rester créative. Dernière question et non des moindres, je l'ai volontairement gardée pour la fin. 28e question donc, les newsletters sont-elles primordiales ? Oui, la newsletter, avoir une base email, c'est essentiel. Et si je l'ai gardée pour la fin, c'est pour vous annoncer que ce sera l'objet du prochain épisode. Comment et pourquoi utiliser l'emailing pour votre activité de yoga. Voilà, il est temps pour moi de vous quitter. J'ai répondu à la majorité des questions que je peux avoir. J'espère que ça vous a été très utile. Je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à lundi prochain.